Voilà, mes auditeurs de Radio Maria France, nous retrouvons Bernadette dans les studios pour l'émission Martyr d'aujourd'hui.
Chers auditeurs de Radio Maria, bonjour. Alors, joie de vous retrouver pour faire mémoire aujourd'hui d'un autre martyr du Liban, le père Nicolas Cluyters. Alors, ce prêtre, si vous êtes de bons auditeurs de Radio Maria, vous en souvenez peut-être, c'est le prêtre qui a accompagné pendant 2 ans Rassi Bekerous dans son discernement vocationnel et qui était devenu son ami. Et ce jeune Rassi Bekerous, je vous en ai parlé la dernière fois. Eh bien, 10 ans plus tard, en 1985, toujours pendant la terrible guerre civile du Liban, le père Nicolas Cluyters va suivre Rassi Bé sur le chemin du martyr. Et comme pour Rassi Bé, après sa disparition, on va trouver dans sa chambre une lettre qu'il avait écrite de sa main en arabe, qui mesure bien le chemin parcouru tout au long de sa vie. Alors en voici le début. « Dieu, Père Saint, je t'offre ma vie pour le salut de mes frères musulmans et le salut des hommes du monde entier. Reçois mon offrande avec le sacrifice du corps et du sang de Jésus à la gloire de ton nom. » Alors je vous propose donc en 2 émissions de parcourir les étapes de ce chemin de vie et de voir comment le Seigneur a travaillé le cœur de Nicolas pour le préparer à livrer sa vie par amour. Alors aujourd'hui, nous allons voir les 40 premières années de sa vie, en sachant qu'il a vécu que 45 ans. Il est né dans la jolie ville de Delft, aux Pays-Bas, la ville du peintre Vermeer, et comme Vermeer, tout petit, lui aussi veut être peintre. C'est quelqu'un de sensible à la beauté du monde, un passionné d'art et qui aime tout particulièrement le dessin. Il naît le 25 mai 1940. Son pays est occupé depuis 15 jours par les Allemands et va le rester jusqu'en mars 1945, soit l'avant-veille des 5 ans de Nicolas. Mais cette ambiance de guerre ne le touche pas trop, ni lui, ni ses 4 frères et 2 sœurs, car les parents, qui ont un commerce de produits laitiers, veillent à ce que leurs enfants ne manquent de rien. Ses parents sont des gens simples, travailleurs, mais aussi des croyants à la fois solides. Quand il a l'âge d'aller à l'école, il est inscrit dans une école catholique, il y suit son primaire et puis ensuite va bifurquer vers une filière moins classique, une filière pratique, technique, moins stricte, qui correspond plus à son tempérament d'artiste. Une fois le bac en poche, toujours fidèle à son idée de devenir peintre, il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de La Haye. Le dessin, c'est toujours sa grande passion. Il peint surtout des portraits en noir et blanc, il faut dire qu'il est daltonien, au fusain ou à l'encre de Chine. Mais s'il aime l'art, il a du mal à supporter le milieu artistique où baignent les étudiants, un milieu trop libre, un milieu sans foi où il ne retrouve pas les valeurs que lui ont enseignées ses parents. Il demande alors de faire son service militaire plus tôt et au cours de ce service, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il s'intéresse de plus en plus à la religion. Il va visiter le noviciat des jésuites. Le soir, dans son lit, il lit le Nouveau Testament. Mais il n'a pas pour autant changé d'idée à propos de son avenir qu'il envisage toujours dans le dessin ou la peinture. Et comme sa caserne est basée à La Haye, eh bien, il peut encore le soir suivre un cours d'enseignement du dessin à l'Académie des Beaux-Arts. Après ce service militaire, il va travailler pendant 6 mois dans une usine de céramique où il est peintre faïencier. Il reprend ensuite des études à l'Académie des Arts Appliqués à Bréda. Il s'initie alors à la fresque, au vitrail, à la mosaïque. Et le week-end, pour gagner sa vie, il travaille dans un stand de frites près de la frontière belge. Il est ensuite nommé professeur de dessin dans 2 écoles et il a environ 20 ans. Mais cette vie consacrée à l'art ne le satisfait pas pleinement et il continue sa recherche de Dieu. Il passe du temps à prier, à lire la Bible, Il visite les communautés religieuses. Par exemple, quand il est à Bréda, il va voir les bénédictins qui sont près de la cette ville. Il va rencontrer la communauté de... Il va découvrir la communauté de Thésée, entraînée par un ami, Roland, qui en deviendra frère, et avec qui il va partager pendant 13 ans une longue correspondance. Il se rendra aussi en France, à Toulouse, pour découvrir les petits frères de Charles de Foucauld, ou même à Paris, visiter les chiffonniers de l'abbé Pierre. Car pour lui, cet engagement des religieux sur le terrain, eh bien, ça lui parle et il se sent attiré par cette vie auprès des plus pauvres. Il a gardé aussi un lien avec les jésuites, car la spiritualité de saint Ignace correspond à ses aspirations. Et le 15 mars 1963, il écrit au père, maître des novices, « Je voudrais vous mettre au courant de mon désir de pouvoir entrer dans votre ordre. Je voudrais vous mettre au courant de mon désir de pouvoir entrer dans votre ordre. » Une demande plutôt curieuse. D'ailleurs, les jésuites semblent un peu réservés sur l'arrivée de cet artiste, oui, et dont la formation professionnelle ne correspond pas tout à fait aux critères exigeants de la congrégation. Seulement, Nicolas est quelqu'un de tenace. Il va étudier le grec, le latin. Il va rencontrer à plusieurs reprises le père provincial et après une bonne année d'attente, de mise à l'épreuve, il est enfin admis au noviciat. Il a 25 ans. Or, ce temps du noviciat, ce sont de longues années d'études passées entre le Liban, où il a été envoyé, et Paris. Il étudie bien sûr la théologie, la philosophie, mais aussi l'arabe pendant 2 années qui lui semblent longues et bien difficiles. Et à cela, il ajoute une formation toute personnelle, celle d'assistant social, toujours dans l'idée de pouvoir aider les plus fragiles. Ce temps du noviciat, c'est aussi un long cheminement où Nicolas prépare son cœur au sacerdoce, et au bout duquel les tiraillements entre vie consacrée à l'art ou vie consacrée tout court se sont apaisés. Le 9 juin 1973, il a 33 ans, il est ordonné prêtre à Amsterdam. Le lendemain, il a la grande joie de pouvoir célébrer sa première messe dans sa ville natale, à Delft, en présence de toute sa famille. Pendant quelques mois, il est envoyé en mission aux États-Unis, puis il est nommé à Tanaïl, la résidence des jésuites du Liban, et il y est nommé en tant que missionnaire itinérant dans les villages maronites, catholiques, pauvres et isolés dans la Bekaa, au nord du Liban, dans une région à majorité musulmane. Et c'est dans cette région, la plus aride, la plus pauvre, à la frontière nord-est avec la Syrie, à 200 km de la ville de Beyrouth, c'est là qu'il va accomplir sa mission. Alors, il s'installe d'abord dans un petit village chiite du nom de Hermel, où quelques religieuses travaillent dans un hôpital. C'est un village extrêmement pauvre, à majorité musulmane. Et il s'y installe pour se faire plus proche des bergers maronites et devenir leur aumônier. Pendant la semaine, à bord d'une vieille Renault qu'il a achetée d'occasion et qu'il a baptisée Polycarpe, du nom du martyr du 1er siècle, il sillonne la région pour célébrer la messe dans les différentes paroisses. Ses journées sur les routes sont rudes, solitaires, longues. Heureusement qu'une fois par semaine, il regagne le couvent de Tanaïl et là se ressource auprès de sa communauté. Dès le début de cette exploration à travers la région de la Bekaa, il est touché par le dénuement aussi bien religieux que moral dans lequel se trouvent ces villages chrétiens. Il n'y a pas de vie religieuse régulière, faute de prêtres. Il voit des chrétiens qui s'adonne à la culture et au trafic du haschich, qui est plus rentable que le maigre rendement de la terre. Il assiste à des divisions politiques, il voit des divisions tribales, des rancœurs qui durent de génération en génération, des désirs de vengeance. Ceci aussi bien chez les catholiques que chez les musulmans. Et il écrit « La vie chrétienne paraît malade à partir de la base ». Eh bien voilà, c'est là que Nicolas commence sa mission. Et les débuts, on s'en doute, ne sont pas faciles. Il arrive un soir d'octobre 74 dans le village de Barka. Il se présente en arabe. « Je suis un prêtre jésuite hollandais et je suis venu pour être le curé de votre village. M'acceptez-vous ? » Imaginez les regards. Cela fait plus de 3 ans que ces villageois n'ont pas vu de prêtre. Ils le dévisagent comme une bête curieuse avec son béret sur la tête et se demandent même ce que vient faire cet étranger dans leur village perdu. Il faut dire que l'ambiance qui règne dans le pays est à la méfiance. Les miliciens palestiniens sont partout dans la Bekaa. Beaucoup d'armes circulent de tous côtés. On se méfie donc des étrangers qui pourraient bien être des agents de puissances étrangères. Alors la première question qu'on lui pose, « Qui t'a envoyé ici ? Comment puis-je savoir si tu es un prêtre catholique ?» Mais comme il a beaucoup d'humour, il leur répond « Et moi, comment puis-je savoir que vous êtes catholique, que vous n'êtes pas des miliciens palestiniens ?» Une autre fois, toujours à Barka, devant l'église Saint-Michel, le père Nicolas demande à des passants de lui indiquer où se trouve la deuxième église du village. Mais personne ne lui répond. Et il lui faudra attendre plusieurs visites de ce petit village de Barka pour qu'enfin on la lui indique. Et des situations de méfiance ou de défiance du style, il va en connaître plus d'une. Au début, il va célébrer sa messe dans des églises vides, hein, juste avec la présence d'une petite mamie. Et c'est grâce à elle, dira-t-il, qu'il persistera à dire sa messe dans ces églises vides. Puis, quand les paroissiens vont commencer à venir, il va assister à des situations plutôt curieuses. À cause de divergences entre les clans du village, à Barka par exemple, il constate qu'une partie des paroissiens attend la dernière seconde avant d'entrer à l'église pour la messe et ces paroissiens attendent à 200 mètres de l'église. Et ils attendent quoi ? Que ceux du clan qui ont fait construire l'église pour eux soit rentré dans l'église de façon à ne pas les saluer. Belle vie chrétienne. À tout cela s'ajoute une autre difficulté, celle de la langue. Parce que malgré les années d'études de l'arabe, Nicolas a du mal à se faire comprendre de la population, ce qui entraîne d'autres situations bizarres, comme celle où il va voir rebaptiser des enfants qu'il a déjà baptisé. Mais le père Nicolas Cuiters est tenace, il ne se décourage pas, il est à l'écoute, il fait preuve de patience, de persévérance, il a le cœur gonflé d'espérance et de foi, il s'attelle à la catéchèse, forme des équipes, c'est là qu'il connaîtra Racibé, hein, s'appuie sur les religieuses en place et très vite il s'attache à cette région. Il apprend à connaître ses habitants, à respecter leurs coutumes, il partage leur modeste vie. Et il écrira « C'est là que j'ai appris ce que signifie partage, pauvreté, simplicité. » Et en retour, les habitants apprennent à le connaître et à l'aimer. Mais voilà que les événements se précipitent dans le pays. La guerre civile qui a éclaté au printemps 75, eh bien, au mois de décembre, sévit dans tout le pays. Et la région de la Bekaa n'est plus sûre du tout pour les chrétiens et encore moins pour les étrangers. Le père provincial rappelle donc Nicolas en Europe pour y faire son 3e an. Son 3e an, chez les jésuites, ce 3e an est une année sabbatique spirituelle après quelques années pastorales pour terminer la formation du jésuite. Cette année du troisième an est donc un temps de ressourcement spirituel. Et pour le Père Nicolas, ce temps de ressourcement va être vraiment particulier, car il commence par un choc énorme qui va le poursuivre, le hanter toute sa vie. C'est l'annonce brutale du martyr au Liban, du martyr de son ami, le jeune séminariste Racibé. Cette annonce est suivie par une autre nouvelle tout aussi douloureuse pour lui, le décès de son ami Roland, le frère de Thésée avec qui il partageait tant de confidences. Et comme si ce n'était pas assez, cette année-là, il est victime d'un très grave accident de voiture qui va le laisser inconscient, qui l'obligera à des opérations chirurgicales et il gardera des séquelles toute sa vie, notamment des maux de tête. Toutes ces épreuves font encore mûrir sa réflexion sur la souffrance, le mystère de la croix, le chemin vers Dieu à la suite de Jésus. En convalescence, il en profite pour écrire des articles pour des revues jésuites, pour raconter son expérience au Liban, son désir de promouvoir la justice par la propagation de la foi. Il répond aussi aux courriers qu'il reçoit de ses amis du Liban, qui lui font part de nouvelles de plus en plus inquiétantes. Il lui annonce que la région de la Bekaa, par exemple, a bien souffert, que les cessez-le-feu ne sont jamais observés. Enlèvement, pillage, bombardement, tout ça, c'est monnaie courante. Et lui, en attendant de pouvoir y revenir, eh bien, essaie de leur remonter le moral et les soutiens de sa prière. Septembre 76, le père Nicolas est de retour au Liban. Il sait les risques auxquels il s'expose. Il a peur, mais il est déterminé. Il demande seulement à son père provincial de prier pour qu'il y parte avec courage et qu'il fasse du bien. Et de 76 à 80, du bien, il va en faire, et même beaucoup. Tout en continuant son activité pastorale, de catéchèse, il s'oriente un peu plus vers un apostolat social, en accord bien sûr avec sa hiérarchie, et à partir du village de Barka, qui devient le cœur de son activité, et où il devient, comme il l'écrit, le berger des bergers. Et ce berger, porteur d'amour, de paix, d'espérance, qui a déjà fait des merveilles, continue à faire des merveilles dans les cœurs des villageois. À son contact, eux qui étaient autrefois fermés et rancuniers, apprennent à se regarder différemment, à travailler ensemble, à être solidaires. Et avec leur Abuna Nicolas, comme ils le nomment affectueusement maintenant, ils entreprennent un énorme chantier de construction. Une construction d'école, un atelier de couture, des salles de réunion, un agrandissement de l'église, un tracé d'une route agricole de 12 kilomètres, tout ça à la main, menant à de nouveaux terrains agricoles, un couvent pour de futures religieuses, la maison du prêtre, pour ne citer que quelques-uns des travaux, ce qui fait dire à l'instituteur de Barka, la guerre qui sévit au Liban détruit tout, mais les habitants de Barka, eux, sont en train de bâtir. Et oui, ils bâtissent. Le père Nicolas veut donner à ses paroissiens et surtout aux jeunes de bonnes raisons de rester vivre à Barka, de ne pas céder à la pression des musulmans qui les poussent à fuir. Et ces années, donc, malgré la guerre, sont des années de projets qui réussissent, qui aboutissent, des années pleines de confiance, d'espérance. Les habitants qui voient l'implication de leur cher curé pensent que l'avenir est désormais possible chez eux à Barka et s'investissent à fond. Alors, je terminerai juste cette première partie par quelques mots du père Nicolas Cluyters, des mots pleins de reconnaissance pour le Seigneur. En voyant tous ces résultats obtenus, il a réalisé en fait que tout cela, c'est le Christ lui-même, c'est le Seigneur qui l'a fait à travers sa pauvre personne. Alors je vous lis ce qu'il écrit. « Jamais je n'ai osé rêver de pouvoir signifier ainsi quelque chose pour les hommes. Toutefois, tout est allé de soi avec une telle facilité, et cela compte tellement pour le village et la région, que pour moi, il n'y a pas de doute que le Seigneur a voulu me destiner à cela. Combien mystérieuses sont les voies du Seigneur. Voilà, chers auditeurs de Radio Maria. Eh bien, ainsi s'achève la première partie de cette émission sur le Père Nicolas Cluyters. Alors, nous nous retrouverons le mois prochain pour la deuxième partie. À bientôt. Bonne écoute sur Radio Maria.
Merci beaucoup Bernadette. À très bientôt.